Dernier match de la saison à domicile des Alouettes. Jusqu'à présent, une seule victoire contre sept revers. Seuls les Moineaux de 1952 et de 1969 ont été limités à un seul gain sur leur terrain. Ceux de 2018 pourront-ils faire mieux? Johnny Manziel signera-t-il enfin une première victoire dans la Ligue canadienne? Argonauts, Alouettes, en direct du stade Percival Molson, au réseau Cogeco.
Le football des Alouettes. Au réseau Cogeco, c'est le football des Alouettes de Montréal. Retrouvons à la description Jean Saint-Onge et à l'analyse Steve Charbonneau.
Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue au stade Percival Molson. Steve Charbonneau, tu sais que je dis toujours, c'est une belle journée pour le football. Je dois admettre, aujourd'hui, j'ai un doute.
Oui, non, écoute, il pleut solide. Il n'y a pas un joueur de, qui n'a pas un pouce carré de sec encore sur le terrain.
Écoute, honnêtement, là, dans l'histoire des matchs, au stade Percival Molson, je me rappelle d'un match où il pleuvait autant, mais il faisait pas moins 1000 comme aujourd'hui. Je peux te dire que je voyais dans les estrades, il y en a encore quelques-uns là, qui sont arrivés presque une heure avant le match, ils ont leurs gros imperméables, sont assis à leur place sur le petit banc. Là, moi, si je suis le président ou un gars des Alouettes, là, je m'en vais tous leur donner la main un par un. C'est quelque chose là, aujourd'hui.
Il y en a encore des partisans. La semaine passée, quand on est revenu de Toronto, c'était le train des partisans. Je veux dire, ceux qui étaient là, c'est du monde qui suivait même dans le temps que je jouais là.
T'es sérieux?
Oui, oui. Fait qu'il y en a qui restent accrochés, peu importe le produit sur le terrain. C'est des vrais fans de football, la CFL entre autres, mais surtout des Alouettes, évidemment. Puis aujourd'hui, ben comme tu l'as mentionné, tous les partisans assis dans les estrades avec cette pluie-là qui tombe, faut vraiment aller leur serrer la main, comme tu dis, puis les remercier d'être là.
C'est le dernier match de la saison à domicile. C'est aussi notre dernier match à la radio, puisque la semaine prochaine, les Canadiens ont eu la mauvaise idée de jouer en même temps que les Alouettes. Ça veut dire qu'on ne présentera pas le match qui a lieu à Hamilton. Ce sera plutôt Canadiens contre le Lightning. On pourrait dire le rapide Canadien contre le très rapide Lightning. En passant, là, je sais que t'es un peu un amateur de hockey. Si on t'avait dit que le Canadien aurait 14 points sur 20 dans les 10 premiers matchs, là.
Non, effectivement, c'est. Je pense qu'il n'y a personne qui s'attendait. La barre n'était pas très haute. Fait que déjà que le Canadien gagne avec les joueurs qu'ils ont sur la patinoire présentement, je pense qu'il y a plusieurs, dont moi, plusieurs partisans qui ont été. Agréablement surpris du départ canon du Canadien de Montréal.
Et moi, je vais faire le lien avec les Alouettes. Les Canadiens, au cours des dernières saisons, patchaient, bouchaient des trous avec des vétérans, tout ça. Cette année, ils ont finalement décidé de prendre le vrai virage et de rajeunir leur équipe et tout ça. Ce que les Alouettes ont peut-être tardé à faire et qu'ils ont commencé à faire, je dirais, avec la transaction de Manziel, on a laissé partir Westerman et on a laissé partir Chris Williams et on était cherché des jeunes joueurs, des joueurs pêchage depuis ce temps-là. On a laissé partir les vétérans comme Tyrell Sutton pour faire de la place à Stenback. Les carrières sur la formation, maintenant que Drew Willey n'est pas revenu, ce sont tous des jeunes hommes de 26 ans ou moins. Puis le plus jeune quart partant dans la Ligue canadienne a 26 ans, c'est Jonathan Jennings. Bref, on a vraiment fait un rajeunissement de l'équipe récemment. C'est l'heure des bilans. Est-ce que les Alouettes, selon toi, sont en meilleure position qu'ils ne l'étaient l'année dernière à la même date?
Écoute, c'est difficile à dire parce qu'évidemment, en date d'aujourd'hui, on a la même fiche ou à peu près. Et que il reste deux matchs, celui d'aujourd'hui et celui de la semaine prochaine. C'est clair qu'à domicile, tu l'as mentionné, une seule victoire à domicile. Donc, c'est difficile de...
C'est arrivé deux fois dans l'histoire de l'équipe. Là.
C'est difficile de créer ou de monter un fanbase quand à domicile, tu as de la difficulté à gagner. Et souvent, ça fait partie du spectacle. C'est pas que ça. Les gens aiment le happening, aiment l'ambiance quand ils viennent au stade. Mais quand t'as pas de victoire ou que tu tires de l'arrière par plusieurs touchés à mi-temps, exemple, c'est difficile pour la foule de s'élever et d'encourager leur équipe. Et ça fait partie du problème / solution à apporter ici. Il faut gagner surtout à domicile.
Allons-y plus spécifiquement parce que naturellement, Les commentateurs ont amorcé leurs analyses cette semaine. Il y en a qui souhaitent que Johnny Manziel ne revienne pas. Il y en a qui souhaitent que Mark Sherman ne revienne pas. Le plus contesté du groupe est certainement le directeur gérant, ouais, Kevin Street. Si on commence avec lui, moi, la semaine passée, il y a quelques semaines, je me suis avancé, je me suis dit que je croyais qu'il allait être de retour. Ouais. Sinon, on ne l'aurait pas laissé faire les dernières transactions. Toi, est-ce que, un, tu crois que qu'il sera de retour? Est-ce que tu souhaites son retour? Deux, okay, questions différentes.
Moi, en fait, je pense que les réponses qui s'en viennent là, de ma part, là, va répondre à ta première question. Est-ce qu'on est en meilleure posture pour l'an prochain qu'on l'était l'an passé ou peu importe, ou cette année? Je vais te dire ceci. Moi, je suis encore très, très surpris que ce gars-là soit encore là, d'une part. Et je comprends qu'on a un lien probablement avec son salaire. On doit lui payer. On a tellement fait de changements dernièrement, puis qu'on doit encore payer des gens qui sont à la maison en train de regarder la NFL.
il doit y en avoir moins. Là,
ou la CFL ailleurs. Mais
les contrats sont pas mal terminés.
Oui, peut-être. Mais tu sais, à quelque part, je suis surpris qu'il soit encore là. Ça a été pour moi une improvisation sur 2 ans. Et tu t'as mentionné la signature de Manziel. Faut pas se leurrer, là, la signature de Manziel, c'était pour sauver sa job.
En fait, la transaction, parce que Manziel, son contrat, il l'avait signé les Tiger Cats, il avait signé pour 2 ans, donc il est encore sous contrat pour l'année prochaine, mais les Alouettes n'ont rien négocié de ça.
C'est ça. Mais quand même, je pense que il y a des transactions qui se sont faites qui semblaient pour moi être une improvisation pure et simple. Et ça, parce que on a un gars qui est en train de faire ses classes au poste de directeur général. Quand tu arrives avec un plan, le fameux plan là, que tout le monde nous a présenté, puis que c'est présenté par un président recru, un DG recru, un coach qui connaissait absolument rien de la CFL, et tu nous arrives avec un plan basé sur quoi? Sur quelle expérience et sur quelle statistique CFL? Si on se fie à ça, je suis même surpris que ces trois-là soit là. Et maintenant, on nous a présenté un plan, on est allé avec ça, on a donné la chance aux coureurs, puis quand je dis « on », je parle des partisans, je parle de tout le monde, toi et moi. Et là, ben, on n'a pas évidemment vu les fruits de ça, et on se pose encore la question, selon moi. Moi, je me pose encore la question, à savoir, si on vient avec tout ce beau monde-là, là, qui ont probablement toutes les meilleures intentions au monde,
il n'y a personne qui se lève le matin en disant « je veux perdre 15 matchs cette année ».
Non.
Ça, c'est certain. Tout le monde veut réussir. Mais toi, tu ne reviendrais pas avec tout ce monde-là.
Moi, j'ai encore des questionnements.
Moi, je vais casser ma corde. Ouais. Parce que généralement, je te pose les questions et c'est rare que je m'avance. J'ai l'impression, je donne, les gens disent « oh, il ne veut pas se mouiller ». C'est vrai, je ne veux pas mouiller. Je considère que ce n'est pas toujours ma job. Mais aujourd'hui, je casse ma corde.
Oui, vas-y.
Moi, Kevin Reed, je souhaite qu'il ne revienne pas, personnellement.
Okay.
Même si comme individu, c'est un monsieur qui m'est pas antipathique.
Non, non.
Sauf que j'ai revu son plan de l'année dernière en 10 points, qu'il a mis d'ailleurs, vous pouvez aller le revoir sur le site des Alouettes, il est encore là. Quand il parle de l'amélioration du talent canadien, quand il parle de statuer sur de bâtir une équipe d'entraîneurs, quand il parle de régulariser la situation au poste de quart arrière, moi je pense qu'il n'a pas atteint ces objectifs-là. Mm-hmm. Dans le cas du quart arrière, s'il avait fait ce qu'il a fait lors de la saison morte l'année dernière, plutôt qu'en cours de saison, puis rajeunir l'équipe lors de la saison morte, alors que les joueurs qui étaient allés chercher, là, c'était tous des gars qui avaient de l'expérience dans la Ligue canadienne, c'était tous des gars de plus de 30 ans, ou à peu près, je pense à Joe Burnett, je pense à Westerman, je pense à Chris Williams, je pense même à Patrick Lavoie, que j'adore, mais on a quand même cédé un joueur plus jeune pour avoir un vétéran plus âgé. Bref, j'aurais aimé ça qu'il fasse ça avant le début de la saison. Pour cette raison-là, moi, je pense que, et j'ajouterais que Kevin Street ne m'a pas prouvé qu'il était capable d'aller chercher des joueurs aux États-Unis s'ils ne sont pas auparavant passés par la Ligue canadienne. Et des receveurs de passes, des demi-défensifs, il faut aller en chercher qui n'ont pas encore goûté à la Ligue canadienne, qui n'ont pas été rejetés par d'autres équipes. Oui, Enoch Mwamba, c'est une super belle addition. Mais je pense que ma mère aurait pu faire cette addition-là parce que Mwamba, c'est un joueur établi.
Ouais.
Donc, si j'avais le choix, probablement que je me serais déjà lancé à la recherche d'un nouveau directeur gérant. Voilà, j'ai cassé ma corde, je la casse plus. Mais c'est pas le seul que les gens s'interrogent. Les gens s'interrogent également, est-ce que Mike Sherman doit être de retour? Sherman, cette semaine, on a entendu Enoch Mwamba aux amateurs de sport avec Mario Langlois nous dire qu'il souhaite que M. Sherman parlait déjà comme s'il allait être là l'année prochaine. On présume que son contrat était de 2 ans plus une année d'option. On va écouter Mike Sherman là-dessus sur sa possibilité de retour l'année prochaine et pourquoi il veut être de retour.
I want to flip the record around. I think we can. I think we're moving in the right direction, and I'm not just saying that because I'm the coach and I own the record. I feel that we have a really good foundation, and we've solved some problems that we had earlier in the year. I think we're one of the most critical positions on the football team is the quarterback position, and I feel very confident the depth of that position. We've had to deal with an inordinate amount of changes on the offense, in particular in the quarterback position, no less, was 6 or 7 different starts from guys. I think once we pay the price, I think there's always a price to be paid, and so we pay that price, and hopefully that doesn't happen to us again, that we get that many people banged up.
Mike Sherman veut revenir, veut renverser la fiche de cette année. Il veut faire partie de ceux qui ont bâti ça. Il croit que cette année, contrairement au début de saison, on a maintenant des options au poste de quart arrière. D'ailleurs, aujourd'hui, les Alouettes ont annoncé qu'ils avaient fait signer des contrats à Pipkin, Jeff Matthews et Vernon Adams. Vous direz, est-ce que ça vaut ce que ça vaut, un contrat dans la Ligue canadienne? Mais moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça veut dire que Pipkin ne s'en va pas ailleurs. Donc, que ça marche ou pas avec Johnny Manziel, on a une autre option. Puis moi, personnellement, Vernon Adams, je serais curieux de le voir jouer sur une base régulière. Lui aussi pourrait peut-être faire sa place. Dans le cas de Sherman, est-ce qu'on souhaite son retour?
Il paraît qu'il ne fait pas l'unanimité dans le vestiaire. Tout le monde parle...
Dis pas tout le monde. Non. Ça, c'est quelque chose.
Okay.
Les joueurs, certains joueurs et les commentateurs qui sont curieusement d'anciens joueurs.
Wait a minute.
je sais comment vous êtes, les joueurs.
Attends.
Faut pas qu'on vous en demande trop, des fois.
Mais ce que j'allais dire, c'est que il y a eu plusieurs écrits cette semaine qui parlaient de Manziel, que lui n'était pas nécessairement apprécié, exemple, dans le vestiaire.
Manziel.
Oui.
Sherman, maintenant.
Sherman. Je dirais que c'est... Il y en a peut-être plus qui sont en désaccord avec son retour qu'il y en a qui sont en accord avec...
Là, tu parles des joueurs.
Oui, exactement. Donc, c'est sûr que c'est un gars qui était, en début de saison, surtout, quand il est arrivé, il est arrivé avec cette mentalité de la NFL, là où tu as des joueurs, tu en as 13, la douzaine, et que les entraînements, on y va à fond, puis on se tape dedans. Puis la CFL, c'est un petit peu différent. On a un petit roster, donc on n'est pas nombreux à voyager, puis une blessure, c'est souvent long à traiter. Puis, fait que quand tu ne suis pas les règles à CFL, parce qu'il y a eu d'ailleurs des plaintes de
l'association des joueurs. Le temps qu'on a fait l'entraînement était trop
long. Donc, il a fallu qu'il s'ajuste, puis je pense que ça, il l'a sur le cœur. Mais il était déjà, je pense, 3-4 semaines de fait dans la saison, puis les gars étaient déjà brûlés. Donc, c'est difficile pour les joueurs, ça a été difficile pour eux autres de se relever. Ici, je veux juste revenir sur... On parle beaucoup des carrières, les carrières qui ont signé pour l'année prochaine, donc Pittman, etc., puis que Manziel est de retour. Tant aussi longtemps qu'on trouve pas une ligne à l'attaque efficace, peu importe qui tu vas mettre au poste de carrière, je suis désolé, on n'arrête pas de parler des portes tournantes, mais on a parlé des portes tournantes au poste de carrière. C'était simplement parce qu'on n'était pas capable de protéger nos carrières. On a donné 63 sacs du corps, évidemment, et la deuxième position ou l'avant-dernière position, dépendamment si tu regardes de haut en bas, de bas en haut, c'est Ottawa avec 41. C'est énorme.
Les Alouettes ont donné 2 fois plus de sacs que leurs adversaires d'aujourd'hui, les Argonauts. 31-62.
Exact, c'est fou. Et les carrières dans cette ligue-là, on sait que les carrières mobiles ont souvent un petit peu plus de succès qu'un pocket carrière. Mais là, tabarnouche, un carrière qui fait juste sortir de sa pochette pour sauver sa peau, c'est difficile pour lui de continuer à lire ses receveurs. Donc, il faut protéger nos carrières mieux que ça.
Dans le cas de Sherman, moi, je te dirais que je souhaite son retour. et malgré ce que certains joueurs peuvent avoir trouvé. Parce que je pense que M. Sherman est un bonhomme intelligent.
Oui.
Et je pense qu'il s'est adapté. Je pense qu'il a beaucoup appris cette saison. Il ne part plus de zéro. Et au moment où il y a eu justement des portes tournantes au poste d'entraîneur depuis le départ de Mark Trestman, j'aimerais ça voir deux années d'affilée. Et j'ai l'impression qu'il prendrait encore plus sa place l'année prochaine auprès de ses adjoints. Peut-être qu'il effectuerait des changements au sein de son personnel d'entraîneur, d'adjoint. Et je pense que et la stabilité et l'expérience d'un Sherman pourraient être utiles aux Alouettes. Et en plus, avec en connaissant mieux la Ligue, en connaissant mieux le football canadien, peu importe qui sera son directeur gérant, il pourrait y avoir de meilleurs échanges. Parce que là, il fallait qu'il accepte les joueurs qu'on lui présentait sans trop.
Ouais, ouais.
Il y avait vraiment pas de... Surtout qu'il n'est pas arrivé quand même...
Mais là-dessus, Jean, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on peut pas rechanger du tout encore. Là. Mais s'il y a des changements sur les lignes de côté ou dans les bureaux, peu importe, je suis d'accord avec toi que Sherman, on devrait lui donner une deuxième chance.
Maintenant, l'autre controverse de la semaine, Johnny Manziel, un commentateur, mon ami Charles-Antoine Sinotte, a d'abord déclaré que Johnny était détesté dans le vestiaire et que, et là je le cite, personne ou presque ne souhaitait son retour. D'abord, on va écouter la réaction de Johnny Manziel.
This report and this bullshit that it is affects my life and affects how people perceive me. And I come in here to work every day. I treat my guys in the locker room with respect. There's not one person in the locker room that I don't call a friend. So ask the guys. If you really get a chance to ask around, ask the guys and see what they have to say.
Je pense qu'il l'a pris personnel. Mm-hmm. D'ailleurs, s'il y a quelque chose à dire sur Johnny Manziel, c'est qu'on l'a vu quand il n'avait pas repris sa place immédiatement parce que Pepkin jouait bien. Oui, il a un bon ego. On s'entend que c'est un personnage polarisant. De là à dire que personne ne souhaite son retour. D'ailleurs, Charles-Antoine, le lendemain, a un peu tempéré ses propos en disant « Peut-être que j'aurais pas dû généraliser. » Mais il y a effectivement, et c'est probable qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas le retour de Manziel, parce qu'il y a des joueurs de football, quand on voit qu'un joueur se fait donner un poste sans avoir vraiment donné l'impression de le mériter, les joueurs de football, il y en a qui accepteront jamais ça.
Ouais, peut-être. Mais moi, j'ai un exemple à donner. C'est dans le temps que je jouais Mike Pringle. Mike Pringle, c'est un gars hyper talentueux, un gars qui travaillait super fort, énormément de talent sur le terrain. À l'extérieur de terrain, je suis le premier à dire que ce gars-là, jamais j'aurais envoyé une carte de Noël. Il était pas dans mon cercle d'amis, puis c'est correct. Tu peux ne pas apprécier un gars
l'individu.
Ou l'individu parce que tu trouves qu'il est peut-être...
trop centré sur lui-même,
exactement.
Ou, etc.
Exactement. Mais j'étais le premier à dire que Mike Pringle, c'est un Christy joueur de football, puis je l'aurais pris dans mon équipe anytime.
T'aimais mieux jouer avec lui qu'avoir à l'arrêter.
Oui, oui. Puis c'est d'ailleurs, il m'a suivi, il est venu à Edmonton avec moi après. Mais donc, il faut faire la nuance, je pense. Est-ce que c'est un gars qui est apprécié de tout le monde? Personne dans un vestiaire de 60 quelques gars est apprécié de tout le monde. Ça, moi aussi, je pense que ses propos, il a bien fait des nuancer parce que Manziel, depuis qu'il est là, apparemment qu'il a des bonnes éthiques de travail, en fait, du moins mieux que ce qu'on avait entendu parler quand il était à Hamilton, mais il y avait un deuxième rôle à Edmonton. Pas à Edmonton, à Hamilton. Ici, il y a quand même un premier rôle, donc je pense qu'il travaille bien avec les entraîneurs, il s'entend bien avec les joueurs. Il était dans le train avec moi la semaine passée, je l'ai vu, et c'est les 12 gars qui étaient là dans le train,
ça jasait,
il y avait du fun, du plaisir. Il semblait pas être un gars qui était pas apprécié là.
Je l'ai vu aussi interagir avec les partisans. J'ai vu quelques selfies qu'il a pris avec des partisans dans le train, tout ça. Bref, il semble pas le gars complètement sur son île, même si son nombril est assez important compte tenu de son passé et tout ça. C'est pas surprenant, mais moi aussi, honnêtement, je souhaite son retour parce que je crois qu'il a le talent. Hey, Les quarts arrière là, dans CFL, là, lui, il a 25 ans. Il va avoir 26 ans le mois prochain. Là. Il n'y en a pas de partant à 25 ans. Beau Levi Mitchell est un accident de la nature. Il est devenu partant à 23 ans. Et là, peut-être même qu'il regarde, semble-t-il, qu'il aurait des occasions dans la NFL pour devenir à tout le moins réserviste, dans le cas de Beau Levi Mitchell. Mais les autres, là, c'est des gars qui deviennent partants à 28 ans et qui sont bons à 30 ans.
Ouais.
Là, les quarts arrière des Alouettes, c'est pas le cas, là.
Non, exactement. Puis il faut donner, tu sais, il arrive, Menzel, là, il arrive avec cette réputation-là, puis de Johnny Football, puis tout ça, puis monsieur, puis on l'a quand même, on lui a vendu l'idée qu'il s'en venait ici pour relancer l'équipe en plus. Donc c'est sûr que ça flatte l'ego. Puis là, ben, je pense qu'il est en train de s'ajuster. Il est en train de s'ajuster à la CFL, à la Ligue, mais aussi à cette équipe-là, donc, et aux coéquipiers avec qui il voyage, puis qui pratique, puis tout ça. Donc, à un moment donné, il est jeune, il est en train de maturer tranquillement, pas vite. Il y en a que ça prend plus de temps que d'autres.
Ben, mais... s'il avait maturé plus rapidement, il serait probablement encore dans la Ligue, dans la NFL.
Mais je suis convaincu que ce gars-là pourrait être un très bon carrière. Est-ce que ça va être un Doug Flutie? Non, je ne pense pas.
Il n'y a pas deux Doug Flutie.
Exactement. Mais je pense qu'il peut être un carrière qui peut rendre de très bons services ici à Montréal. Il faut juste le protéger et avoir confiance en lui encore une fois.
On a parlé de l'entraîneur-chef, du directeur-gérant et du corps arrière, mais il y en a d'autres joueurs dont on ne sait pas s'ils vont revenir l'année prochaine. On en reparlera au retour de la pause. Les Alouettes accueillent les Argonauts de Toronto dans leur dernier match local de la saison 2018. Vous écoutez le football des Alouettes au réseau Cogeco.
Au réseau Cogeco, de retour au football des Alouettes. Avec Jean-Saint-Onge et Steve Charbonneau.
Les Alouettes accueillent les Argonauts de Toronto, dernier match local de la saison 2018. Probablement un dernier match dans l'uniforme des Alouettes pour John Bowman. Il nous dit qu'il est retiré à 99,8%, mais au cours des trois dernières années, il a changé d'idée en cours de route, on verra. Chip Cox nous dit qu'il ne veut pas prendre sa retraite. Luc Brodeur-Jourdain laisse la porte légèrement entrouverte, mais je serais très surpris de le revoir. Stephen Logan est un vétéran également. Là, je vous nomme des gars de 35 ans et plus. Est-ce que ces gars-là seront de retour? Est-ce que mon ami Ernest va être de retour? Steve Charbonneau.
C'est sûr, tu regardes là, des gars comme Chip Cox puis Bowman. Je pense pas que avec une saison comme ça, je pense qu'il se sentirait, il y aurait un petit goût amer de prendre sa retraite avec une fiche pareille comme celle l'an passé. Et si les Alouettes avaient gagné un peu plus, on aurait eu une meilleure fiche, disons qu'on fait les séries, puis même qu'on se rend à la Coupe Grey, exemple.
Ou en finale de l'Est,
En finale de l'Est, je pense que là, oui, on aurait pris nos retraites, selon moi. Mais prendre sa retraite sur une fiche comme ça, tu dis, ah, je veux revenir, puis je veux partir sur une bonne note.
Compte tenu que ces gars-là ont connu des années de gloire avec les Alouettes, je pense à Luc Brodeur-Jourdain, ses deux premières saisons gagnent la Coupe Grey, alors qu'il venait de gagner des Coupes Vanier en plus avec le Rouge et Or. Luc, je l'ai rencontré hier, après les meetings de l'équipe. Il a été très cartésien dans son entrevue avec nous. Pas beaucoup d'émotions, volontairement. J'ai pas essayé de le faire pleurer non plus, mais je pense que si j'avais voulu, ça aurait pas été très difficile, parce que ce match-là aujourd'hui, c'est un match émotif pour lui. Il est partant au poste de centre. Je l'ai vu tantôt saluer les jeunes partisans avant de rentrer au vestiaire après la période d'entraînement. Il profite pleinement de ce qui pourrait être son dernier match dans l'uniforme des Alouettes. On écoute Luc Brodeur-Jourdain. Luc, allons droit au but. Est-ce que c'est la dernière chance que les partisans ont de voir Luc Brodeur-Jourdain avec le numéro 58, les épaulettes et le casque?
Écoute, je garde la même perspective que j'ai eue au fil depuis que j'ai 30 ans, en fait. C'est un sport qui est fait pour les jeunes, mais si on a besoin de moi, je vais toujours être là. Puis je changerai pas ma dynamique. Je vais entamer la saison morte, évidemment, en me disant que je vais garder une bonne condition physique, que je vais continuer à m'entraîner, je vais continuer à me préparer comme s'il y avait une autre saison. Mais en même temps, il y a un moment aussi pour faire une transition. Et je sais qu'on a repêché beaucoup de jeunes dans les dernières années. On a consenti notre choix de première ronde pour la prochaine saison en Tyler Johnstone. On a un Trey Rutherford, on a un jeune Philippe Gagnon. Donc on a une jeunesse quand même sur la ligne offensive. Puis un repêchage qui s'en vient également l'année prochaine. Donc il y a une possibilité d'emmener encore une fois d'autres joueurs. On a Zach Cannon qui a été sur l'équipe de pratique pratiquement toute la saison et maintenant qui a fait partie de l'alignement la semaine dernière. Donc, il y a un potentiel qui est là sur la ligne offensive. Puis, il n'y a aucune façon de prendre de l'expérience autre que d'être sur le terrain et jouer des matchs, faire des erreurs, apprendre et évoluer en tant que joueur. Et tant et aussi longtemps qu'il y a un vieux joueur de 35 ans qui prend ta place, ben, tu n'as pas cette opportunité-là. Donc, si on a besoin de moi, je vais me préparer pour une autre saison. Mais dans le cas où ce ne serait pas cette situation-là, ce sera l'après-carrière qui m'attend.
L'après-carrière, est-ce qu'il y a un jour, même si tu ne veux pas regarder trop loin et tu veux te concentrer sur les deux matchs qui viennent, est-ce que le job d'entraîneur risque d'être intéressant pour toi?
Écoute, je ferme la porte à aucune opportunité. Mais par contre, j'ai pas fermé les portes tout au long de ma carrière, peu importe l'éventualité de qu'est-ce qui m'arriverait après le football. Mais mon focus a été sur toutes ces années d'être un joueur puis d'être un membre participatif au succès de l'organisation. Je ferme pas la porte à une éventualité de poste d'entraîneur, que ce soit au niveau universitaire, collégial ou dans les rangs professionnels. Mais je veux prendre le temps quand même de voir ces opportunités-là, puis vers quoi je vais me diriger. Donc, je vais prendre le temps d'y penser une fois que je vais tourner la page sur la carrière de joueur.
Deux matchs à disputer, dernier match local, donc c'est déjà l'heure des bilans. C'est la première fois de ta vie que tu es en santé, mais sur les lignes de côté. Comment tu as vécu ça?
Écoute, ça a été, c'est un défi. C'est un défi en soi. Lorsque tu as été dans ton rôle a toujours été d'être sur le terrain, puis de performer, d'être un joueur actif, de faire dans ta préparation, de gérer la ligne offensive, de faire l'expression anglophone, mais faire les calls. T'as cette responsabilité-là, puis c'est une responsabilité à laquelle j'ai adhéré tout au long de ma carrière. Mais cette année, je pense que mon rôle était beaucoup plus d'influencer positivement mes coéquipiers dans leur préparation, de leur démontrer que, nonobstant le fait que j'étais pas sur le terrain à jouer, je continuais à me préparer comme si je l'étais. Que je continue à performer, je continue à courir au ballon dans les pratiques, à relever mes coéquipiers lorsqu'il y en a un qui tombe, à courir au ballon. C'est une éthique de travail qui a fait en sorte que j'ai perduré dans cette ligue pendant 10 ans, puis qui a fait en sorte que j'ai mérité une opportunité d'être de retour cette année. Pas avoir eu cette éthique-là de travail, ce souci du détail, peut-être que ma carrière se serait limitée à l'espérance moyenne de 3 ans. Donc, mon rôle cette année était d'influencer les jeunes joueurs de ligne offensive, je pense, à ce qu'est un professionnel du sport.
La saison va se terminer avec une fiche relativement semblable à celle de l'année dernière et de la saison précédente. Certains disent que le mood est différent. Naturellement, à 3 victoires, 13 défaites, cette semaine, ben là, il y a un commentateur qui dit que le quart arrière ne doit pas revenir. Il y a un autre commentateur qui dit que l'entraîneur-chef ne doit pas revenir. Dans le vestiaire, en quoi cette saison-ci a été différente des précédentes?
Écoute, moi, ce que j'ai observé et que j'ai vécu à l'intérieur de notre chambre des joueurs. Évidemment, l'année dernière, je sentais qu'on avait une chambre unie encore à la fin de la saison. Mais les matchs, en tant que tels, on voyait que c'était une pente glissante. On perdait, on tirait de l'arrière très rapidement dans le match. Dans notre dernier droit de saison, on tirait très rapidement de l'arrière. Et les scores étaient très peu compétitifs.
Langage verbal changeait?
Oui, je pouvais le constater. Je pouvais constater qu'il y avait des têtes qui se baissaient, puis que les épaules étaient basses. Mais cette année, si on regarde, la vaste majorité de nos matchs ont été des matchs serrés qui étaient à quelques détails près d'être une victoire pour nous. Donc, on a un football qui doit être pratiqué de façon plus adéquate. Je crois qu'on a été l'équipe la plus pénalisée de la Ligue. Est-ce que c'est parce que les joueurs ne bougent pas assez leurs pieds ou au niveau des assignations, on fait des erreurs, on tente de compenser en penchant du côté de l'illégalité et on se fait prendre. Donc, on n'a pas su céder pour obtenir ces victoires-là. On sait qu'on a un groupe qui a rajeuni également, considérablement. Donc, des fois, un manque d'expérience, tu vas faire une erreur, tu vas essayer de te rattraper et puis tu te fais prendre les pieds dans les plats. Donc, ça a été un peu le processus de notre saison. Et je pense qu'avec l'expérience que les jeunes joueurs ont eue cette année, et le jeune groupe qu'on a, ça va mûrir, ça va s'améliorer.
Est-ce que tu as l'impression, justement, que comparativement à l'année passée, on s'en va plus dans le même sens, dans le bon sens, ou au contraire, on est au même point?
Je crois qu'on est dans une meilleure direction que l'année dernière. On est dans une meilleure situation que l'année dernière, même si le dossier total ne représente pas ça. Le fait en soi qu'on a un club qui est encore compétitif, qui est inexpérimenté à des positions clés, mais qui continue à être compétitif. La marge n'est pas nécessairement très grande en ce moment entre la meilleure équipe et la moins bonne équipe. Quand on regarde nos dernières semaines, on a quand même affronté Saskatchewan, on a affronté Calgary et ça a été des matchs très serrés. Puis on parle de la crème de la Ligue en ce moment. Donc, est-ce que notre marge est si grande que ça? Puis c'est des deux équipes qui ont en poste un carrière d'expérience, qui est capable de distribuer le ballon, qui ont la pression de l'équipe sur les épaules. Qui ont du vécu dans cette ligue-là. Nous, ici, en ce moment, on a un club qui est jeune en expérience, jeune en nombre de matchs joués, qui a une fougue, qui a un désir de réussite, mais qui doit comment comprendre et prendre le temps de s'imprégner de ce qu'est la Ligue canadienne de football.
En tout cas, on sait que tu as fait ta part pour les diriger dans le bon sens et on espère que tu auras l'occasion de continuer à le faire. Merci beaucoup.
Merci.
Luc Brodeur-Jourdain, s'il n'a pas été émotif dans ses entrevues avec les médias cette semaine, il l'a été avec ses coéquipiers quand il leur a adressé la parole hier avant de partir pour venir se préparer pour le match d'aujourd'hui. On fait une pause au retour. Le botté d'envoi de ce match entre les Argonauts de Toronto et les Alouettes de Montréal. Vous écoutez le football des Alouettes au réseau Cogeco.